Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et je vous propose ce matin le deuxième volet d'une série d'émissions consacrée à la paternité. Devenir père de la salle de travail au premier jour du nourrisson. Le futur père doit-il forcément assister à l'accouchement? Que faire si la mère souhaite que d'autres membres de la famille soient présents en salle de naissance? Comment calmer l'angoisse des parents en cas d'épisiotomie? Le père doit-il obligatoirement couper le cordon ombilical? Peut-il assister à une naissance par césarienne? Quel est son rôle dans les premières minutes? Pendant les premiers soins, doit-il faire du pot à pot avec son bébé? Comment accepter de ne rien ressentir à l'arrivée du nouveau-né? Comment se passent les premiers jours à trois? Comment créer une complicité avec son nouvel enfant? Comment dire sa fatigue psychique et physique? Comment réussir sa première semaine à la maison? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, le sage-femme Benoît Le Goédec et la psychiatre Aurélia Schneider, vous pouvez témoigner ce matin sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Et nous attendons notre camarade Thibaut de Saint-Maurice, coincé dans les embouteillages. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebi.
Bonjour Benoît Le Goédec.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme et depuis une vingtaine d'années et vous publiez avec Lionel Paillès chez First, Papa débutant, tout savoir pour préparer sereinement l'arrivée de bébé. Bonjour Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et vous êtes l'auteur de La charge mentale des femmes et de celle des hommes.
Hein. Oui.
Alors lors de notre précédente émission, nous avions terminé en salle de travail. Benoît Le Goédec, Marc nous demande comment dire à sa compagne qu'il ne souhaite pas être présent en salle de travail. Je préfère rester en salle d'attente, je culpabilise et je n'ose toujours pas lui dire alors que le terme approche.
Ah, moment difficile. faut qu'il trouve les mots, mais faut qu'il ose le faire en tout cas, parce que l'enjeu, il est de vivre chacun à sa manière ce moment de conversion, on va dire, que représente la naissance. Et à chaque fois qu'il y a contrainte, on passe à côté de certaines émotions qui rendent difficile après l'engagement parental. Donc il faut qu'il arrive à lui dire, et puis qu'à ce moment-là, il rassure aussi sur la possibilité que sa femme demande à quelqu'un d'autre d'être après elle, auprès d'elle, si elle a peur de cette solitude et affective.
Docteur Aurélia Schneider.
Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'important, c'est de le vivre sereinement. Mmh. Et surtout, l'important, c'est que sa femme soit convaincue, et ça va être une réalité, qu'il est en train d'attendre l'enfant. Mmh. C'est-à-dire que s'il disait qu'il était au boulot, ce serait pas pareil que s'il disait qu'il va peut-être avoir le courage de le dire, et on l'encourage, qu'il souhaite attendre mais dans un autre lieu. Et il se peut même qu'il ait une bonne surprise et que sa femme en soit soulagée. Parce qu'il y a des femmes pour lesquelles ça n'est guère simple d'imaginer que leur conjoint va être dans la salle d'accouchement pour des tas de raisons, qu'on pourrait détailler ou pas, mais pour lesquelles c'est une angoisse.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui,
bonjour.
Bonjour. J'ai un peu de mal à arriver. Oui, je crois que c'est pas toujours facile aussi de en tant que, à la fois, futur père peut-être, mais aussi homme. De savoir où est-ce qu'on va se retrouver, enfin comment, il y a quelque chose qui est médical, il y a des médecins, puis il y a des sages-femmes, et puis ça reste un peu quelque part une affaire de femme, et moi je trouve que c'est parfois difficile on a l'impression de déranger un peu, alors on n'est pas forcément mal accueilli, hein, mais la question c'est aussi peut-être simplement une peur de pas être à sa place. D'être dans un univers ou dans une circonstance où bien sûr qu'on a été partie prenante de cette affaire, mais que
normalement,
voilà, mais que globalement, là, au moment où de l'accouchement, on sait pas très bien où se mettre.
Benoît Le Goédec.
Oui, je crois que de toute façon, pendant tout un temps, très longtemps, les hommes n'étaient pas en salle de naissance, mais ils étaient là. Hein. On a vu beaucoup de rites où les hommes étaient accompagnés à l'extérieur des lieux d'accouchement pour ce moment de passage, en fait. Après, on les y a fait entrer et ils ont du mal à trouver leur place parce que effectivement, beaucoup de soignants sont concentrés autour de la femme. Et eux, ils sont pas dans un état émotionnel habituel. Enfin, moi, j'ai jamais vu un homme serein, cool et tranquille, même si les expressions sont différentes en salle de naissance. Il faut quand même qu'ils se disent, qu'ils soient sûrs que sa femme l'accepte, effectivement, parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes demander et crier à la présence de l'homme parce qu'elles savent que sinon, elles seront seules. Et j'ai vu aussi dans l'accompagnement global de la naissance, où il y a vraiment une femme ou sage-femme, l'indispensable de l'homme qui supporte quelque chose et qui permet une sécurité à la femme, mais pas très proche de la femme, en fait. Parce qu'il y a la sage-femme qui ne la quitte pas à ce moment-là. Mais dans nos contextes hospitaliers où les sages-femmes s'occupent de plusieurs femmes, la femme est sécurisée si son homme est là et elle se pose pas d'autres questions des fois que ses peurs. Et lui, il y répond parce qu'il a l'impression sinon de la laisser tomber. Néanmoins, il y a quand même des hommes qui souhaitent être là pour vivre vraiment ce passage-là, dans les mêmes temporalités que la femme, à chaque instant. Par contre, faut les préparer à l'univers de la salle d'accouchement, faut les préparer à la plainte des femmes, faut les préparer au respect de la pudeur de certains actes, et les autoriser toujours à sortir quand ils ont envie de sortir. Et je rejoins ce que disait Aurélia absolument, être là ne veut pas dire être dans le même lieu, mais en tout cas dans le même temps. Et moi, j'ai beaucoup d'histoires de ce type. Et ça, c'est fondamental que l'homme, par contre, on l'avait déjà dit peut-être, mais s'arrête de faire toute autre chose comme la femme accouche, parce que si il la dépose pour retourner au boulot, évidemment que là, elle se sent abandonnée.
Et que faire si la mère souhaite absolument que d'autres membres de la famille soient présents aux salles de naissance?
Eh ben, je pense qu'il faut questionner quand même le pourquoi des choses et qui. Et que cette présence, et on le voit en postnatal aussi d'ailleurs, ne prennent pas la place sur celle de l'homme quand ils souhaitent le vivre ensemble. Mais je crois que la sécurité affective, en tout cas, peut être apportée par plusieurs membres. Si vous voulez, il y a quelque temps, j'ai une patiente, le mari d'une patiente qui m'appelle à 23h un vendredi en me disant « Benoît, il faut venir, ma femme, ça ne va pas du tout ». Je lui dis, je passerai demain. Il me dit « Non, c'est maintenant, imagine, elle accouche cette nuit ». Et j'y vais. Et cette femme venait de raccrocher le téléphone avec sa mère, avec qui elle avait entretenu une relation ni fusionnelle ni distante, mais un peu plus que d'habitude par téléphone, puisqu'elle habite en province. Et ce soir-là, elle l'appelle et elle raccroche en lui disant « La prochaine fois que je t'appelle, c'est pour te dire qu'on va à la maternité ». Et sa mère de lui répond « Je ne veux pas le savoir, ça m'angoisse trop ». Et elle était en larmes parce qu'elle se sentait abandonnée. Elle avait envie que sa mère soit là, pas forcément dans les lieux, mais dans le temps, pour pouvoir aussi trouver un autre pilier que celui de son mari. Quand c'est dans le lieu, c'est assez compliqué et il faut quand même être sûr que l'homme trouve la place qu'il a envie d'avoir dans leur couple, parce que c'est quand même une histoire de couple avant tout.
Alors j'aimerais que nous fassions un petit point de vocabulaire avec des mots qui peuvent effrayer peut-être le futur père. Forceps, spatule, ventouse obstétricale, monitoring. Est-ce qu'on peut faire le point sur ces mots? Forceps par exemple.
Forceps est un instrument d'extraction du fœtus quand il est entré dans le bassin, mais que où il y a des anomalies de son rythme cardiaque fœtal ou il y a une difficulté de passage d'un des détroits, d'un des parties du bassin. C'est pas l'accouchement physiologique, le forceps, donc il est quand même pas fréquent. 80% des accouchements se passent sans. Mais c'est un moyen, une fois que le bébé est entré dans le bassin, d'accélérer le temps de l'accouchement par un instrument, comme de grands couverts à salade qui se mettent de chaque côté de la tête du bébé, qui ne dispense pas la femme de pousser, parce que le forceps n'est pas un moyen d'extraction au sens où on tire, mais un moyen d'accompagnement médical, instrumental, à l'accouchement.
Monitoring,
c'est le cardiotochographe, c'est-à-dire un appareil qui est placé avec deux capteurs sur le ventre de la mère. L'un qui est un capteur de pression qui enregistre les contractions, puisqu'à chaque fois que le muscle se tend quand il se contracte, ça appuie sur le capteur et ça fait le dessin d'une petite montagne, avec un papier qui défile 1 cm/min, donc on peut voir la fréquence des contractions. Et l'autre, c'est un écho, c'est un capteur qui enregistre le cœur du bébé et qui fait un tracé de sa fréquence, et c'est le rythme cardiaque fœtal qui nous renseigne du bien-être du bébé.
Et la ventouse obstétricale?
La ventouse, c'est un autre moyen d'extraction. Alors ça porte bien son nom, c'est une ventouse, hein, comme celle que vous connaissez. C'est-à-dire qu'elle se pose sur la tête du bébé, non pas de chaque côté de la tête, et par une pression négative, elle s'accroche, et elle permet de guider, de faire tourner le bébé dans le bassin pour les mêmes indications que le forceps, mais c'est une autre mode d'instrumentation.
Aurélie Schneider.
Oui, alors en fait, je pense qu'il faudrait préciser qu'on utilise ces instruments quand le bébé est engagé, puisque lorsqu'il est engagé, on peut plus faire de césarienne.
C'est pour ça que je disais entrer dans le bassin pour prendre un autre mot.
On ne peut plus avoir recours à un mode d'extraction qui serait une césarienne.
Et alors, on est sûr qu'il puisse en sortir, puisqu'il en est entré.
Alors beaucoup de futures mères et de pères sont effrayés par le mot épisiotomie. À tort ou à raison, Benoît Le Goédec? Expliquez ce que c'est peut-être pour ceux qui...
Alors l'épisiotomie, c'est la coupure chirurgicale du périnée, qui est le muscle qui entoure le vagin, pour sa partie profonde et qui forme la vulve. L'épisiotomie est la coupure de cette partie du périnée qui est entre la partie basse de la vulve et l'anus, en fait. Oui, à raison, parce qu'elle a été faite abusivement et sans consentement des femmes. Donc évidemment qu'il y a raison de la craindre, parce que si elle n'avait été faite que sur indication, et il n'y en a pas beaucoup, il n'y aurait pas cette crainte, mais une confiance établie avec les soignants. Après, si elle doit être faite, il faut qu'elle soit consentie par la femme, donc que la femme soit informée de son besoin et de son indication, et qu'elle donne son accord. Et de cette façon-là, déjà, elle sera mieux vécue pour l'intime après.
Et puis beaucoup de couples hein, craignent un impact sur la sexualité postpartum. Hein.
Le périnée est quand même une zone très importante chez la femme et chez l'homme, mais chez la femme pour sa sexualité. De couper le périnée dans une zone de l'intime a forcément... crée forcément des craintes et des appréhensions, déjà parce que ça fait mal au début, puisque le périnée est mis en jeu dans beaucoup du mouvement, simplement, de la vie quotidienne. Et puis parce que c'est une cicatrice, et le temps qu'elle retrouve son élasticité, il peut y avoir effectivement des douleurs dans les premières reprises de la sexualité. Ça ne doit pas durer, une cicatrice, c'est une marque avec une fonction retrouvée. Si c'est pas le cas, il faut consulter. Puis après, il y a le vécu de l'épisiotomie qui, là, peut donner des difficultés au niveau de la sexualité, qui seront plus de l'ordre psychique. Et puis pour l'homme, cette visualisation ou cette crainte aussi de l'atteinte du périnée, de faire mal à la femme.
Aurélie Schneider.
Oui, alors en réalité, le problème, c'est qu'on les pratique, ces épisiotomies, quand il y a un problème de passage. Mmh. Et effectivement, on peut l'éviter avec du travail sur le périnée. Mmh. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par le personnel accoucheur, notamment des massages, etc., quand le travail dure longtemps. Et c'est formidable parce qu'on arrive à voir finalement... Enfin, c'est un petit peu dingue quand on pense qu'une tête d'enfant passe par là. Enfin, ça fait curieux de le dire, mais en même temps, moi j'ai eu un enfant, je me suis quand même demandé comment il allait passer, enfin, comme les autres, quoi.
D'ailleurs, pouvez-vous nous expliquer, Benoît Le Goédec, comment se déroulent les grandes étapes de l'accouchement? La dilatation, peut-être d'abord.
Alors, déjà, le travail, c'est quoi? Parce qu'on dit toujours le travail d'accouchement, là, si on allait à la mine. Hein. Le travail, c'est tout le temps nécessaire à l'ouverture de l'utérus, qui est fermé par ce col, et la descente du bébé vers ce bassin. La plus grande phase est le temps de la dilatation. La dilatation, c'est l'ouverture de l'utérus, c'est-à-dire que ce col qui le fermait jusqu'alors doit disparaître anatomiquement. Donc, sous l'effet des contractions de l'appui du bébé, le col va se raccourcir, se dilater, c'est-à-dire s'ouvrir pour après disparaître, comme si d'un col roulé, vous avez tellement tiré sur les fibres du pull qu'il devient col Mao. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'obstacle entre les deux étages du bassin et entre la cavité utérine et la cavité vaginale, et le bébé peut entrer dans le bassin. Et commence la phase dite d'expulsion, c'est-à-dire d'accouchement proprement dit.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Si vous êtes père depuis longtemps, n'hésitez pas à partager votre expérience. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission. Bon anniversaire d'ailleurs à notre chère Claire Destacan, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear.
dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Mamacas sur France Inter.
Si tu pleures, je la prends. Laisse-la pleurer, elle cherche son sommeil, elle va s'arrêter dans deux minutes.
Grand bien vous fasse.
Bah, écoute tes conseils, hein. Je sais bien que tu la laisses brailler des heures, mais moi je peux pas. Voilà.
Sur France Inter.
Poutou, 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 poutou.
10h24, deuxième volet de notre émission consacrée aux pères débutants. Toutes vos questions et témoignages sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Benoît Le Goédec, je rappelle que vous êtes sage-femme et le co-auteur de Papa débutant. Comment un père peut-il se rendre utile en salle de travail? Il est par exemple bon d'éviter les encouragements trop appuyés comme s'il s'agissait d'une équipe de foot.
Ça dépend.
Comment il peut se rendre utile, le père, en salle de travail?
Ah, je sais pas s'il faut être utile, moi, mais en tout cas, il faut qu'il entre dans le rythme de la femme. C'est vraiment important qu'il entre dans le... S'il veut accompagner, aider la femme dans ce qu'elle vit, il faut qu'il entre dans le rythme de l'utérus, qui est toujours intermittent entre une phase d'effort, la contraction, une phase de repos, la récupération. D'abord, il apporte une affectivité qui est un bon support. Après, il faut qu'il sache ne pas interrompre la femme dans ses façons d'être. Si, donc pendant la contraction, par exemple, l'aide et l'utilité, si on peut dire comme ça, de l'homme, c'est de répondre à la demande de la femme et de se synchroniser à elle. Elle lui tend la main, il y répond. Elle serre, il serre, pour qu'elle ne se sente pas seule. Elle se met à distance, il se met à distance. Et puis après, c'est la repositionner si elle perd repère, en fait. C'est-à-dire, ou venir chercher la sage-femme, pour arriver à ce que la femme puisse toujours être à l'écoute de ce qu'elle ressent. Et puis dans l'entre-deux contraction, là, faut qu'il aille vers elle. Et souvent, les hommes sont perdus face à l'expression des femmes et à la douleur des femmes, alors que dans l'entre-deux, c'est là où il peut l'aider à récupérer, sentir ses tensions, se ressourcer, et ça permet de respecter le rythme neurophysiologique de l'accouchement dans cette intermittence-là.
Docteur Aurélia Schneider, je rappelle que vous êtes psychiatre et spécialiste de la charge mentale.
Oui, alors il y a un truc qui me paraît important aussi, c'est qu'il demande à sa femme où elle veut qu'il se place.
Oui.
À quel endroit elle souhaite qu'il l'accompagne. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'inquiétudes chez les femmes sur le positionnement de l'homme par rapport notamment à l'expulsion du bébé, etc.
Oui.
Et de pouvoir être peut-être plutôt vers son épaule, plutôt justement vers sa main, enfin d'avoir... C'est cette connivence de lieu en même temps que le temps, je trouve.
Oui, je suis d'accord. Je parlais moi plutôt de la phase de dilatation du travail avant de parler de la phase d'accouchement, où là, tu te rejoins tout à fait ce que vous dites, que toute la place de l'homme doit être faite avec l'accord de la femme, de toute façon, et en même temps, dans le respect de ce qu'il veut vivre, lui, parce qu'on lui demande aussi souvent peu à lui, où est-ce qu'il veut se placer, et même les sages-femmes, des fois, disent « Monsieur, venez, venez, regardez », alors que c'est pas forcément quelque chose qu'il veut. Après, il faut qu'il sache être dans les silences, en fait, pas toujours vouloir faire, mais vraiment moi je dis synchroniser, c'est-à-dire être dans l'observation de l'autre, penser au toucher relationnel, poser la main sur l'épaule, ça, c'est des fois l'équivalent d'une heure de massage parce qu'il y a du lien. C'est un petit peu du don et du recevoir à chaque fois, en fait. C'est du va-et-vient, un lien qui se fait, se défait, chacun dans l'observation et l'écoute de l'autre.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, il y a deux choses. La première, je trouve, c'est que on est dans une forme de paradoxe parce que à la fois, il faut être extrêmement concentré et, comme vous dites, se mettre au rythme de sa femme qui accouche, etc. Et on a aussi un peu une fonction de diversion, c'est-à-dire que de temps en temps, pour masquer l'embarras aussi, c'est aussi de parler d'autre chose et de détendre en faisant une blague ou en s'étonnant de quelqu'un ou de quelque chose. Enfin, dès qu'il faut à la fois être impliqué et détaché. Et puis on a une petite utilité avant la salle de vraiment d'accouchement, mais on peut aller chercher une affaire dans un sac. On peut aller, voilà, on se rend utile malgré tout juste avant le.
Mais la diversion, je suis tout à fait d'accord, mais dans l'entre-deux contractions, surtout quand il n'y a pas péridurale ou avant. Ou alors dans l'angoisse plus chronique qu'aiguë, parce que si dans l'aiguë ou dans la douleur, aller faire la blague, je suis pas sûr qu'il passe pas au travers les murs.
Non. Benoît Le Goédec, un père peut-il refuser de couper le cordon ombilical? Que faire si le sage-femme insiste?
Eh ben lui dire non.
Ouais, en fait, parce que c'est une fonction symbolique, cette coupure.
C'est une fonction symbolique pour certains hommes et il faut la respecter à ce moment-là. Ça, n'oublions pas que couper le cordon, c'est quelque chose d'un dicton populaire de la séparation de la mère à l'enfant. Anatomiquement, on le sépare du placenta qui lui-même est inséré à la mère. Je crois que si les hommes veulent le faire et que cette symbolique leur permet de s'ancrer dans l'accueil du bébé après, dans cette fonction paternelle, faut leur laisser faire. Mais en même temps, c'est pas le principal. Par contre, donc il faut que la sage-femme le respecte. Par contre, après, ce qui va être autre chose, c'est plus que couper le cordon, c'est peut-être prendre l'enfant dans les bras, participer aux soins, quelque chose qui doit, là, par contre, s'engager de toute une vie.
Que dire à un père qui angoisse à l'idée que le bébé s'étrangle avec le cordon qui peut éventuellement s'enrouler autour du cou du nourrisson?
Alors que le bébé ne respire pas avant d'être né et que le cordon autour du cou ne va jamais asphyxier ou étrangler parce qu'il n'y a pas de respiration pulmonaire avant d'être né. Et que si le cordon est enroulé, parfois il s'étire quand le bébé descend, donc les flux se font moins bien et ça peut être source de moins bonne oxygénation. Et ça se voit par ce tracé, ce monitoring, et donc ils ne craignent pas, nous on l'observe et on l'analyse.
Oui, alors, il y a quelque chose que je voudrais dire au père, c'est en fait, c'est normal d'être anxieux parce que ils n'ont pas une action spéciale à faire. Quand on est dans l'action, on est moins anxieux. Alors la mère, elle a du boulot, elle est encadrée par une équipe, et je trouve que ce père, qui n'a finalement pas une fonction spéciale, a tout lieu d'être anxieux. Et quand, Benoît, vous dites, finalement, donner la main, finalement un geste, une épaule qu'on touche, ça va valoir du massage. Vous avez parfaitement raison, parce que ça donne un rôle et une action. Mmh. Et il ne faut pas craindre que cette toute petite action soit en fait d'un énorme retentissement. Mmh. Donc il faut se détendre. Cette action avec la main, c'est aussi important que tout le reste. Mmh. Et donc, oui, ok, ça paraît peut-être bien peu, mais en fait, c'est déjà énorme.
Oui, pour chacun. Pour chacun, parce que la femme le reçoit et l'homme le donne. Et quand il est en train de faire ça, même des massages, moi je monte des massages par exemple, eh bien effectivement, il est moins bloqué dans ses émotions ou dans sa pensée parce qu'il agit. Et la femme, elle le recevant, elle se détend aussi. Et ça, oui, c'est une demande beaucoup des hommes de qu'est-ce que je vais faire.
Oui, c'est ça, c'est l'action.
Que se passe-t-il quand la sage-femme amène l'enfant pour des premiers tests? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le test d'Apgar?
Alors, déjà à la naissance, on ne se précipite pas à faire les gestes parce qu'on a un bon diagnostic anténatal déjà maintenant par l'échographie. On observe le bébé, tout est bien là. On le regarde respirer, se colorer et quand il va bien, on sait que c'est contre le corps de la mère qu'il va se passer beaucoup de choses qui vont lui permettre un bon état. Donc d'abord, on le place là. Après, on va aller l'examiner de façon plus approfondie, tous les examens neurologiques, cardiovasculaires, etc. Mais un petit peu à distance de l'accouchement, et là, l'homme peut accompagner ça. Je crois que c'est bien de le faire, même si c'est dans la même salle, parce qu'il est bien pour le bébé de se sentir aussi dans cette sécurité. Le score d'Apgar, c'est un score d'évaluation de l'état à la naissance qui codifie sur 10 la coloration, la réactivité, le tonus, et quelques éléments comme ça, la fréquence cardiaque.
Beaucoup, beaucoup de questions sur le pot à pot avec le nourrisson après la naissance. Est-ce que c'est réservé aux mères? Et expliquez-nous quelle est la fonction du pot à pot.
mal peau à peau. Alors déjà pour la femme, c'est pas rien. Elle vient d'accoucher, elle tend les bras et elle l'a contre elle. Donc c'est important. Pour le nouveau-né, on a montré que le peau à peau avait un bienfait sur sa respiration, sur son équilibre ionique, sur sa sécurité et sur sa thermorégulation. Donc il y a un effet qui n'est pas que psychique chez le nouveau-né, mais il l'est grandement. Et c'est comme si, moi ça me fait penser à l'âge de glace où le petit écureuil... C'est ça, le peau à peau. Mais par contre, il faut bien le poser contre le corps. Et nous, on prend ces précautions-là pour que l'enfant ventile bien. Il ne doit pas être écrasé à plat ventre. Il doit être tourné, la tête sur le côté, pour bénéficier de ça sans autre risque. Et effectivement, le premier, parce que le territoire le moins inconnu qui soit pour un nouveau-né, c'est quand même la mère. Mais après, effectivement, le père peut le faire
aussi. Et puis, le peau à peau, c'est un moment fondamental où le bébé découvre et accroche le regard de ses parents, ce regard essentiel pour créer un attachement.
Ben oui, le proto-regard, ce regard qui permet, et d'autant plus pour l'homme. Si vous voulez, la femme, elle a une rencontre à l'autre par l'intériorité, elle a une rencontre au bébé par ses mouvements, par tout ça, avant de se mettre dans ses yeux. Nous, les hommes, le père, c'est quand il va accrocher ce regard-là de l'enfant qu'il va vraiment, waouh, ça y est, le fixer en lui. Donc il a besoin de ce visage et de ce regard.
Thibaut de Saint-Maurice, quelle est votre ordonnance philosophique à propos de notre sujet du jour ?
Eh bien, je vous propose d'affronter un des grands rites de passage du jeune papa, le choix de la poussette.
Ah, voilà. Philosophie de la poussette.
Exactement. Alors, évidemment, rien n'empêche la maman de choisir la poussette, rien n'empêche non plus que les deux la choisissent ensemble, ou tout ce que vous voulez.
Attention, Julia Foy, je vous écoute. Hein.
Voilà, donc je précise bien. Mais j'ai tout de même l'impression que c'est souvent un choix qui est laissé au père, un peu comme de charger le coffre de la voiture quand on part en vacances ou d'allumer le barbecue. Alors, à l'arrivée du premier enfant, il faut bien avoir une poussette. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'une poussette ou d'un landau simple. Hein, vous avez autant de choix, d'options, de combinaisons possibles que pour une voiture ou une cuisine suédoise. Alors même si on finit par finalement sans doute choisir à deux, l'étude de marché, la présélection sont, comme je le disais, souvent confiées au père. Ce qui m'intéresse dans ce choix de la poussette, c'est que la paternité toute neuve des papas se joue aussi dans cette capacité à choisir, à affronter une complexité et pour finalement répondre de ce choix.
Alors comment faire le bon choix en matière de poussette ?
Voilà, je voulais, Ali, vous entendre poser cette question au moins une fois.
À un professeur de philosophie.
Voilà. Comment faire le bon choix en matière de poussette ? Eh bien d'abord en ne retenant que la première partie de la question, comment faire un bon choix tout court ? C'est parfois terrifiant de choisir parce qu'en choisissant une poussette, donc on renonce à toutes celles que l'on ne choisit pas. Le choix affronte la multiplicité des possibles pour finalement conduire à ne s'en tenir qu'à une seule réalité. Et puis il y a cette autre difficulté, l'impression en fait que l'on ne choisit pas vraiment, que en fait on n'a pas vraiment le choix parce que les contraintes qui pèsent sur le choix sont trop fortes. Il faut à la fois que la poussette soit confortable, sécurisante et complète, mais qu'elle ne prenne pas trop de place dans le coffre et qu'elle soit facile à plier. Devant la complexité, on prend conseil, on pose des questions et puis finalement on se retrouve à avoir choisi la poussette que les amis, voire le vendeur, ont presque choisi à notre place. Alors pour renforcer notre capacité à choisir, mais à choisir en première personne et résolument, je vous propose d'en revenir à la manière dont Descartes pense notre libre arbitre, comme cette capacité absolue que nous avons en nous de nous autodéterminer. Choisir, c'est se pousser à vouloir quelque chose plutôt qu'une autre. C'est donc découvrir le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes. La possibilité de ne pas être seulement influencé par les autres, mais aussi donc la possibilité de résister à toutes les influences pour finalement n'être influencé que par soi-même. On part ainsi à la reconquête de soi en pouvant revendiquer à la première personne des choix qu'on a faits. Et ça ne vous aura pas échappé dans nos conversations ordinaires. Nous disons de quelqu'un qui fait ce genre de choix résolu et déterminé qu'il a la paternité du choix et de ce qui en découle. Alors voilà, choisir une poussette, hein, c'est encore une manière d'apprendre à devenir père en progressant dans la compréhension de ce que c'est que la paternité, une responsabilité de ses décisions et au fond aussi une responsabilité de soi. Et en ce sens, le choix de la poussette n'est qu'un des premiers choix d'une longue liste à venir. Mais il est caractéristique de cette complexité nouvelle qu'il faut affronter avec l'arrivée d'un enfant, il y a tant à faire, tant de possibilités nouvelles, et comment savoir si ce que l'on fait, ben c'est ce qu'il faut. La paternité s'apprend dans tous ces choix-là, et la paternité c'est donc une fonction et une émotion, et non pas d'abord une qualité naturelle. Elle n'a donc rien à voir avec le fait d'être un homme, mais tout à voir avec le fait d'accepter d'être parent et d'accepter de choisir ce qu'il y a de mieux pour son enfant.
L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur l'appli France Inter. Allez, nous attendons toutes vos questions de père débutant sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Et si vous êtes père depuis longtemps, n'hésitez pas à partager votre expérience.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est sale. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Qu'il est bête.
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi. Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Le très beau titre de Philippe Catherine, Bonhomme.
Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse, sur France Inter.
11h20, on s'intéresse ce matin au premier pas des pères débutants. Laure nous dit, Ali, les mots ventouses et forceps font également peur aux femmes. Bien évidemment, chère Laure, ça ne fait pas peur qu'au futur papa. Que dire Benoît Le Goédec, que dire au futur père qui se demande pourquoi est-ce qu'on agite mon bébé comme ça, dans tous les sens, comme un gigot. Il y a beaucoup de pères qui sont un peu inquiets. C'est une question que vous posez dans votre livre,
moi,
Papa
j'agite
débutant.
Moi, je n'agite pas les gigots, déjà, je les pose dans le plein. Non, mais on les agite pas. Par contre, on va effectivement, pour les examiner, devoir les passer d'une posture à l'autre. Alors, normalement, il y a une attention dans le geste où on accompagne la neurophysiologie du bébé. C'est-à-dire que lui, il va pas se tourner en faisant un bond en l'air et hop, en se reposant de l'autre côté. Il va se rouler sur lui. Donc, quand on fait attention, on prend les gestes. Mais le père, lui, qui voit son enfant et qui est encore maladroit parce que pas mature, il est extrêmement impressionné par nos gestes à nous qui sont des gestes de soignants et habituels. Donc faut le rassurer et observer l'enfant. En général, quand on le fait avec respect, il pleure même pas. C'est que ça lui va bien.
Merci beaucoup.
Comme la garder, s'il te plaît.
Ouais, mais alors attends, tu te dépêches toi. Hein. C'est lourd. Quoi. T'inquiète pas, elle revient.
Regarde.
Elle paye, elle revient. Regarde, t'inquiète pas. Ça sert à rien de faire ça. Elle arrive. Mais t'inquiète pas. Oui, mais non, regarde. Voilà, elle va payer. Voilà, elle paye, regarde. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle se barre là, non? Christine!
oublié tes affaires.
Un extrait du film Demain tout commence avec Omar Sy. Alors beaucoup de papas, hein, Benoît Le Goédec, se sentent un peu maladroits, ont peur de faire tomber le bébé, sont mal à l'aise avec ce nouveau-né qui arrive dans leur vie, dans leurs bras, avec la peur, oui, de le faire tomber.
Oui, et pourtant...
Il est solide, le bébé.
D'une part, il est solide. Et d'autre part, ce sont les pères qui portent dans les postures physiologiques d'un enfant le plus simplement. Parce que justement, on leur a pas trop montré comment faire. Donc, faut les accompagner à oser prendre, faut qu'ils se sentent disponibles pour. Puis après, faut surtout les laisser aller à la rencontre de l'autre parce qu'ils portent dans la verticalité, ils sécurisent d'une autre façon, ils sont assez spontanés dans des gestes non éduqués qu'au final, cette maladresse est un atout pour le nouveau-né et la différence de la mère.
Thibaut de Saint-Maurice, père de jumeaux, vous en avez eu deux dans les bras.
Exactement, oui. Alors ça, il faut apprendre un petit peu quand même avec les deux. Ce que je trouve très mignon, c'est que effectivement, un nourrisson qui vraiment vient de naître, c'est très faible en un sens, c'est très impuissant, c'est tout petit, c'est voilà, et c'est à partir de ce corps hyper vulnérable. C'est lui qui va recomposer en fait tout un ensemble de comportements et de voilà, et donc on peut être un peu grand, un peu lourd, un peu encombré de soi-même, etc. Et tout d'un coup redevenir totalement précautionneux et donc attentif à la façon dont on va. Voilà. C'est quand même une expérience très simple, mais de ce que la vulnérabilité peut, enfin de la force de la vulnérabilité en fait, ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire de la façon dont la vulnérabilité d'un être qui est constaté implique un changement de comportement, d'attitude, de bienveillance, etc.
Oui, une adaptation au bébé, à ce que l'on est, avec plus de liberté. Mais c'est pas facile en maternité ou en salle de naissance, c'est beaucoup plus facile chez soi de se laisser aller quand même à ce que l'autre nous apprend en fin de compte.
Docteur Aurélia Schneider.
Alors, moi j'ai envie de dire qu'il faudrait faire confiance même à la préhistoire, parce que si on avait dû tous laisser tomber les bébés depuis la préhistoire, on serait plus là à se parler.
On serait pas là dans ce studio. Au docteur Aurélia Schneider, beaucoup de pères s'interdisent de dire leur fatigue physique et psychique, car ils n'ont pas accouché, donc ils s'interdisent de verbaliser leurs émotions, leur fatigue, leur désarroi peut-être.
Eh ben, écoutez, je pense qu'il faudrait pouvoir le faire, parce que ils ont participé aussi, enfin, à leur façon et avec aussi leurs angoisses, leurs questions, leurs interrogations qui taisent. Je pense que c'est important de s'exprimer et de parler en toute simplicité. La maman peut dire qu'elle est fatiguée, le papa peut dire aussi que lui soit est fatigué, soit est inquiet. Je pense que la communication est quelque chose de fondamental, et à ce moment-là, il ne faut pas s'en priver. Après l'accouchement, tout en étant bien sûr très empathique sur ce qui vient de se passer pour sa femme, évidemment.
Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à ce moment où les parents et le nouveau-né se retrouvent enfin à trois à la maternité. Comment gérer les allées et venues de la famille et des amis, Benoît Le Goédec?
Faut pas leur annoncer la naissance si on n'a pas envie de les voir trop tôt.
Faut attendre 3-4 jours, c'est ça?
Oui, je crois qu'ils le vivront pas très bien. En tout cas, faut sélectionner à qui on veut l'annoncer. Beaucoup de gens pensent la maternité comme un espace public et la chambre aussi, et viennent, même quand on n'est pas forcément très proche. Faut faire attention à préserver la maman qui vient d'accoucher, le bébé qui a besoin de se découvrir l'autre et cet intime-là. Et le père, dans ces espaces, il y a toujours quelqu'un quand il est là, c'est compliqué. Ben, il faut le dire, voilà, on vous verra à la maison. Et puis sinon, se faire aider du personnel soignant, parce que nous, on met des fois sur la porte, ne pas déranger, a besoin de sommeil, contre-indication aux visites. Et comme ça, ça donne un support du soignant médical qui leur permet d'oser dire et d'être tranquille.
Ces allées et venues, ça pèse sur la charge mentale des parents.
Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, j'ai des patientes qui m'ont dit que certains endroits demandaient que seuls la fratrie et le papa viennent. Oui. Alors, il faut savoir que les séjours en maternité sont quand même très courts. Et moi, je préconise beaucoup, beaucoup de vigilance dans le filtre. Et effectivement, il m'est arrivé de conseiller de ne pas dire tout de suite qu'on avait accouché.
Alors, lors de ces premiers moments à trois, certains pères peuvent avoir du mal à trouver leur place entre la mère et l'enfant.
Oui, oui, bien sûr, parce que d'abord, ça dépend de l'idée qu'ils en avaient avant, de la représentation, et puis beaucoup du vécu aussi de l'accouchement et de ce qui s'est contenu et ce qui n'est pas encore passé à l'éclat de joie, en fin de compte. Et dans le coup, ça diffère un petit peu cette facilité à entrer en relation. Et puis après, il y a quelque chose d'un lien qui persiste avec la mère, notamment quand il y a allaitement, où il retrouve cette dualité, en fin de compte, cette dualité à la fois, c'est-à-dire déjà deux, mais en même temps de nouveau en lien, que l'homme a des fois du mal à se situer dans des fonctions hors de la fonction nourricière. À ce moment-là, il ne sait pas quoi faire. Mais en même temps, on lui autorise pas, dans beaucoup d'endroits, de rester là tout le temps. Donc les maternités qui permettent à l'homme de rester, de dormir, de passer les deux jours du séjour avec la femme, il arrive à trouver sa place. Sinon, on le décale dans la temporalité. Donc la mère a déjà pris un espace, et lui, après, quand il arrive à la maison, où là, il est 24 heures sur 24 avec les autres, eh ben, il a un temps de retard. Alors c'est un autre travail à faire que de retrouver sa place.
Ça vous fait sourire, Thibaut de
Saint-Maurice. Oui, non, je dis à tous le père et les jeunes papas qui le veulent, ne tenez pas compte de ce que vous interdit. Si vous voulez rester vous dans la chambre, vous restez dans la chambre. Elle est pas malade, la maman qui vient d'accoucher, c'est un événement.
Alors quelquefois il y a les autres enfants de la fratrie.
Alors voilà, bien sûr, oui, bien sûr. Hein, mais je veux dire, si un jeune papa veut rester à côté de sa femme et de son enfant, qu'il reste.
Le plus longtemps possible.
Qu'est-ce qu'on fait des conseils des mamans, enfin des grand-mères et des belles-mamans? Vous recommandez dans votre livre, Benoît Le Goédec, de ne pas en tenir compte. C'est un peu dur quand même.
Oui, c'est un peu dur. En fait, il faut tenir compte des conseils qu'on a envie d'entendre auprès de personnes dont on a confiance et qu'on est allé chercher pour avoir ces conseils. Ne pas en tenir compte, c'est peut-être un peu excessif. En tout cas, il faut savoir faire de l'évitement positif quand ça ne nous convient pas.
Ah, expliquez-moi l'évitement positif.
C'est-à-dire dire oui, mais ne pas en tenir compte. Parce que sinon, on est ébranlé beaucoup. Et chacun va y aller dans ses conseils par son expérience de vie, parce qu'il veut rattraper avec cet enfant. Et là, les gens sont perdus.
Oui,
en fait.
Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense même que ça finit par culpabiliser les jeunes accouchés. Et c'est vraiment surtout pas ce qu'il faut qu'il se passe.
Voilà. Par contre, il est bienvenu, et on le voit dans d'autres cultures, quand il y a une autre personne de la famille qui est là pour accompagner les mères. Mais moi, je suis étonnée de cette présence indispensable, mais vraiment avec très peu de conseils, juste des prises de relais par moment, et ça soulage. Et ces familles-là, elles ne se passeraient pas de la génération d'en dessus à la maison au moment de la naissance. Nous, on est trop invasifs, en fait.
Paul nous dit « Je ne suis pas favorable à l'allaitement au sein. Comment ne pas créer des tensions au sein du couple ?»
C'est un homme qui dit ça.
Oui, un homme, oui, Paul.
Eh bien, c'est toujours difficile. Il faut qu'il explique pourquoi, comment il se représente ça et pourquoi il ne veut pas. Qu'est-ce qui lui fait peur dans le fait que sa femme allaite et après la respecter, parce que si elle le choisit, ben, malgré tout, ça peut faire partie de l'établissement de sa maternité, de quelque chose lié à la physiologie. Et encore une fois, c'est un choix partagé, discuté en tout cas, disputé au sens socratique, mais en même temps... où on doit respecter le choix de la femme. Par contre, il faut qu'il se questionne sur pourquoi il n'a pas envie de ça. Est-ce qu'il ne se représente le temps avec l'enfant que par la pause dans l'alimentation, dans le biberon? Quelle est la place qu'il pourrait trouver? De quoi il a peur dans cet allaitement? Est-ce qu'il a peur d'être exclu de toute relation? Est-ce qu'il a peur du côté charnel du bébé et de la femme? Enfin, de quelque chose, d'une grossesse qui se prolonge. Et quand on l'accompagne à ces questions-là, ben, ça peut être plus simple aussi d'exprimer et d'accepter le choix.
Beaucoup de questions sur la mort subite du nourrisson qui angoisse les parents. Que sait-on sur cet événement dramatique, sur la survenue de cette mort subite du nourrisson?
Alors, avant de répondre directement, je vais quand même dire qu'il faut avoir confiance dans la vie et confiance dans le bébé, parce que c'est toute une vie le risque, hein, et on ne sait pas ce qui nous attend à un moment, donc il y a besoin d'une confiance. Après, il y a des précautions. La mort inopinée du nourrisson, on a des facteurs de risque identifiés.
Par exemple,
le principal, c'est l'hyperthermie maligne, c'est-à-dire un bébé qui ne peut plus juguler sa thermorégulation et qui va en faire donc une surchauffe, on va dire, et qui va en faire un accident cardio-respiratoire. Les précautions les plus grandes, on les connaît, et quand on les a mis en place, on a réduit de 60% la mort inopinée du nouveau-né. Et celle-là, il faut absolument les respecter. C'est coucher son bébé sur le dos quand il est en sommeil. Quand il est en sommeil, il n'est pas tout le temps sur sur le dos quand il est en éveil. Ne pas trop chauffer les maisons, ne pas le surcouvrir, éviter le tabagisme passif. Et tout ça, ça fait qu'on n'accentue pas le risque du reste de ce qu'on ne connaît pas.
Et dans le berceau, ni doudou, ni coussin, ni peluche.
Non, tout ce qui pourrait le tenir au chaud ou lui tomber dessus.
Pouvez-vous nous expliquer le béaba de la toilette du nouveau-né? Quel est le béaba? Certains pères ne savent pas s'y prendre.
Non, mais
vous aurez besoin de vos conseils, vous savez.
Les pères ne font pas forcément comme les mères. Donc il faut déjà qu'ils osent faire comme ils ressentent. Moi, je me souviens de mon premier enfant où sa mère est venue et a dit « Ah bon, tu fais pas comme ça ?» Parce que moi, je ne savonnais pas l'enfant à côté de l'eau. Parce qu'il hurlait tout le temps. Donc je préparais le bain, je déshabillais et plouf. Elle le savonnait à côté et il riait tout le temps. Enfin, il riait et il souriait tout le temps. Et je lui ai dit, écoute, où tu sors, où tu fais. Et donc elle est sortie. Et après, j'ai fait. Donc il faut qu'il se laisse aller à ses gestes. Après, il n'y a pas grand-chose. Les sécrétions des yeux, quand il y en a, donc ça en montrera à la maternité avec un petit coton, puis une sérum physiologique. S'il y a des baves, nettoyez bien les plis, asséchez, puis le reste, c'est mettre dans l'eau, et encore pas tous les jours. Et puis le siège et les organes génitaux, parce qu'il y a des selles, et ça, on doit le nettoyer pour. Les pères sont un peu inquiets avec les petites filles, parce qu'ils ne savent pas comment faire pour nettoyer, ils ont peur de l'agression, mais on peut leur montrer ces gestes-là dans l'accompagnement post-natal. Pour le bain, on le déconseille tous les jours. Et après, faut le prendre comme un temps d'échange, de jeu. Et puis, ça suffit pour un nouveau-né.
Alors, dès les premières secondes de sa vie, le bébé a besoin de communiquer, d'être cajolé, d'entendre ses parents. Comment lui parler Et est-ce qu'il comprend ce qu'on lui dit?
Oui, il comprend. C'est un être doué de raison.
Oui, mais
déjà en arrivant.
Je fais exprès de poser cette question parce qu'il y a une idée reçue selon laquelle le bébé ne comprend rien, même
dès
les premières secondes, les premières minutes.
Il comprend, et c'est même pourquoi parfois, quand il y a quelque chose d'un blocage dans l'histoire des parents qui pourrait faire interférence dans la relation, qui met obstacle, il est bon de savoir le raconter ou trouver un médiateur pour le raconter, notamment en psychologie ou psychiatrie. Par contre, accompagner les gestes du quotidien par la parole, l'enfant comprend et puis c'est sécurisant. Il faut s'autoriser les variations de voix comme on fait. On a toujours l'impression de parler un langage particulier quand on va avec le bébé. Il ne faut pas chercher à parler comme d'habitude dans l'intonation, dans les « Ah, oh, mais tu es que le mignon !» et tout ça. Parce que on sait que ça attire le bébé à la relation. Et on le fait tous, sans le réfléchir. Et ça serait dommage de réfléchir à ne pas le faire parce que c'est quelque chose qui attire et qui participe.
On s'interdit d'utiliser un parler bébé?
Non, justement, c'est ce que je disais. Il ne faut surtout pas s'interdire parce qu'on a vu qu'il y avait une interaction différente, les changements de tonalité, les relations. Puis après, il n'y a pas que le langage verbal. Il y a tout ce qui est paraverbal et des fois, c'est porter un bébé qui va être le langage le plus approprié pour qu'il se sécurise, en fait.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur la parole. Et d'ailleurs, on avait dit la fois précédente, on leur parle aussi aux bébés quand ils sont in utero. Moi, je le dis souvent à des patientes, parlez à votre bébé, dites-lui. Notamment une, c'était assez étonnant, une qui souhaitait vraiment accoucher par voix basse alors que le bébé avait un handicap. Et l'équipe médicale avait dit, vous savez, ça va être très compliqué quand même par voix basse, on vous propose la césarienne parce qu'on craint beaucoup pour... Et ma patiente était en larmes dans mon bureau en disant « Mais moi, je tiens à accoucher par voix basse. » Et je lui avais dit « Parlez à votre petite fille. » Enfin, j'ai fait quelque chose de bon sens. J'ai dit « Parlez à votre petite fille, dites-lui que vous voulez qu'elle sorte par le chemin naturel, et aidez-la et qu'elle vous aide aussi. » Et bien en fait, ma patiente a accouché par voix basse. Mmh. Et elle m'a dit « L'équipe médicale m'a donné 20 minutes. » Eh ben la petite est sortie en 20 minutes. Ah oui, moi j'ai trouvé que c'était génial. C'est probablement un hasard, mais j'ai trouvé que c'était formidable.
Enfin, je pense pas que ce soit un hasard, mais c'est que cette parole qu'elle a donnée à son bébé, c'est peut-être pas le bébé qui s'est dit tout d'un coup j'y vais, j'en sais rien.
Mais il y a eu une force.
Mais en tout cas c'est quelque chose
qui lui a
donné.
Elle a déployé une force quelque part.
Voilà. Après si on ne parlait pas aux enfants, ils ne parleraient pas plus tard non plus. L'élaboration du langage, il vient. C'est pour ça qu'un nouveau-né est doué de potentiel incroyable, notamment celui d'apprendre toutes les langues de la terre. Parce qu'il nous entend et on lui parle, donc c'est essentiel.
Benoît Le Goédec, vous avez été confronté forcément à ces pères qui trouvent leur bébé pas très beau. ou qui ne leur ressemblent pas du tout et qui s'inquiètent justement de cette absence de ressemblance. D'abord, quand on trouve pas son bébé très beau, ça peut créer un malaise quand même.
Oui, en fait, j'ai pas tellement été confronté à ça, parce que quand il y a l'émotion de la rencontre, on le trouve toujours beau, et c'est après qu'on se dit, bon, peut-être pas tout à fait, parce qu'il a la tête comme ci, il a la tête comme ça. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Et de la même façon, quand on connaît pas le sexe de l'enfant à la naissance, il y a quelque chose, une rencontre de l'autre, en dehors de tout, et de sa sexuation, de sa beauté, etc. Vraiment assez originel, je dirais. Et après, ben peut-être les ressemblances. Oui, c'est une grande question, oui. Parce que tout le monde en cherche et tout le monde le dit. Et, et
ça voilà. Évolue en plus très vite.
Et puis ça évolue. Et puis il est forcément propre, enfin différent de nous, même s'il y a un patrimoine transmis qui lui a redonné sa combinaison propre. Et puis voilà, mais ça rassure ou ça fait du bien.
Un dernier conseil pour les pères qui paniquent, il existe les PMI.
Oui, il y a tout un réseau de soins d'accompagnement anté et post-natal. Et les PMI, ce qui fait que l'OMS a classé la France comme premier en réseau de soins périnatal, parce qu'on peut y aller en simple lieu de conseil, en simple lieu de peser un enfant, si c'est ça qui rassure, mais aussi en consultation médicale. Après, ça dépend de leurs soignants, parce qu'ils sont des fois en manque de postes. Mais c'est un très bon lieu dans tous les quartiers et dans toute la France.
Eh bien, vous reviendrez, Benoît Le Goédec, pour la suite des aventures du papa débutant. Je recommande Papa débutant, c'est publié chez First. Merci beaucoup, Aurélia Schneider.
Merci à lui.
La charge mentale des femmes et des hommes, eh bien, c'est publié chez
Larousse.
Merci beaucoup. Demain, nous vous aiderons à préparer vos bonnes résolutions de 2020. Comment mieux gérer son temps avec le youtubeur Fabien Olicard et la psychiatre Christine Mirabel Sarron. Toutes vos questions sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et puis nous enregistrons une émission consacrée aux vertus thérapeutiques de la poésie. Pourquoi en lisez-vous? Pourquoi en écrivez-vous? On évoquera notamment les vertus méditatives des haïkus, ces poèmes courts en 3 lignes, en 3 vers et 17 syllabes. On vous attend sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.